Alors merci Monsieur Braque de votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler donc de ce salut à la sauvette. En effet, le bouddhisme à l'occidental, quelle est son anthropologie? Et plus précisément, la question, c'est quel homme la méditation entend-elle sauver? Une journaliste m'interrogeait récemment sur le sens à donner au Bouddha de jardin. Ces statuettes stéréotypées sont partout, me disait-elle, de la salle de bain à la chambre à coucher, du salon de coiffure au bricorama, de la maison de retraite à l'étude du notaire. Que fallait-il y lire? Que fallait-il comprendre? Était-ce là le signe d'une conversion massive au bouddhisme ou au contraire sa déchéance dans le consumérisme occidental? Elle-même semblait opter pour la seconde hypothèse et attendait que je lui parle de la spiritualité de pacotille représentée par les nains de jardin d'étagères que représentent ces statuettes de Bouddha. Avant de répondre à ces questions, il faut rappeler ce que l'on entend exactement par bouddhisme. Le terme bouddhisme est un néologisme inventé au tout début du XIXe siècle en France et en Angleterre pour désigner les traditions se référant au personnage du Bouddha, qui veut dire l'éveillé en sanskrit. Ce dernier venait d'être découvert dans les textes sanskrits et palis rapportés d'Inde et de Ceylan par les Britanniques, et parlait tout autant de rituels, de cosmogonie compliquée et de phénomènes surnaturels que de philosophie. Mais les chercheurs ont considéré qu'il fallait distinguer les sutras primaires consacrés au discours philosophique du Bouddha des sutras secondaires qui parlaient de ses pouvoirs magiques. Les premiers relèveraient du bouddhisme authentique, tandis que les seconds ne montreraient que son altération. Le mot bouddhisme n'a aucun équivalent dans les langues asiatiques qui préfèrent parler de religion, tchö en tibétain par exemple, ou d'ordre cosmique, le terme de dharma en sanskrit. Quant au Bouddha, il désigne à la fois pour les Asiatiques un prince devenu ascète, un être au pouvoir surnaturel, tous les éveillés qui l'ont précédé et tous ceux qui le suivront sur la voie de l'éveil, du nirvana. Le mot désigne également différentes divinités, l'essence des choses, caractérisée par la vacuité, et enfin la nature de l'esprit, propre à tout être. La notion de Bouddha ne saurait donc se réduire à un personnage de l'Antiquité, dont les dernières recherches nous montrent d'ailleurs qu'il n'existe à son sujet absolument aucune preuve d'ordre historique. Ce que l'on appelle chez nous le bouddhisme est en fait un ensemble de traditions religieuses, parfois extrêmement différentes, dont le seul point commun est de se réclamer du Bouddha, quel que sens que l'on donne à ce mot. Ces traditions, probablement nées en contexte hindou, avec un probable apport manichéen, se sont mêlées au fil du temps de leur expansion géographique aux diverses cultures qu'elles croisèrent en chemin, donnant lieu à des pratiques rituelles et à des croyances multiples, parfois peu cohérentes entre elles. Pour les Asiatiques, être bouddhiste consiste à prendre refuge dans les trois joyaux, que sont le Bouddha, le Dharma, donc le cosmos et les règles garantissant son respect, et le Sangha. Le Sangha, c'est la communauté des croyants, un terme qui comprend un groupe qui comprend les moines, les nonnes, les laïcs, mais aussi des êtres surnaturels, dont les plus connus sont les bodhisattvas, des êtres qui retardent leur accession à l'éveil dans le but d'aider les autres à y parvenir. L'objectif de cette prise de refuge est de parvenir sinon à l'éveil, qui est surtout réservé aux moines, du moins à une meilleure renaissance. Les bouddhistes, comme les hindous, croient en effet que au samsara, ce cycle sans fin des morts et des renaissances. Il existe six types de destinées après la mort, également appelées classes d'êtres ou royaumes. Le royaume des enfers, le royaume des esprits faméliques, le royaume des animaux, le royaume des êtres humains, le royaume des demi-dieux belliqueux et le royaume des dieux. Seule la renaissance comme être humain, mâle, offre une réelle chance, quoique infime, d'atteindre l'éveil. La renaissance comme homme est aussi rare, disent les bouddhistes, que pour une tortue perdue dans l'océan, le fait de sortir de l'eau au milieu de l'unique bouée flottante à la surface. L'enseignement principal que l'on attribue au Bouddha et que toutes les traditions régionales ont conservé se nomme les quatre vérités. Quelquefois, on parle des quatre nobles vérités, mais une traduction plus juste serait les quatre vérités pour les nobles. La réalité de la souffrance, la réalité de la cause de la souffrance, la voie hors de la souffrance et l'octuple sentier ou voie du milieu. En termes courants, on dira simplement que la vie est insatisfaisante, que cet état de fait s'explique, qu'il est possible d'y remédier et que le Bouddha nous explique comment faire. Les bouddhistes comparent souvent le Bouddha à un médecin qui observe les symptômes d'une maladie, en détecte la cause, propose une voie de guérison et prescrit un traitement. Ces traitements sont nombreux. Parmi les plus pratiquées en Asie se trouve le culte des reliques, du Bouddha ou d'autres maîtres, la récitation du nom du Bouddha Amitabha pour renaître dans son paradis, des pèlerinages, circulaires ou linéaires, ayant pour centre ou pour point d'arrivée l'image d'une divinité ou les reliques d'un maître. Les rituels dits tantriques, qui consistent à convoquer une divinité, à s'unir à elle et à se transformer en elle pour s'accaparer et utiliser ses pouvoirs, dont le pouvoir d'atteindre l'éveil. Avant sa promotion par d'anciens hippies américains, très rares étaient les bouddhistes par le passé à avoir jamais pratiqué la méditation. Cette technique de calme mental, si on l'utilisait quelquefois, n'était qu'un préalable à des rituels plus compliqués qui comprenaient des invocations de divinités ou de démons, des prières, des confessions de fautes, des prosternations, des offrandes, des récitations de formules magiques, des visualisations complexes d'univers fabuleux, l'absorption de diverses substances, végétales, minérales, animales, humaines, le maniement d'instruments de musique, la réalisation de gestes magiques, etc. Le calme mental était aussi proposé aux moines présentant des déficiences intellectuelles, incapables de se lancer dans pareille liturgie. Toutes ces pratiques entendent remédier à la maladie de l'être humain identifiée par le Bouddha. Cette maladie est l'ignorance, l'ignorance de la réalité des choses. Pour les bouddhistes, qui s'opposent en cela aux hindous, il n'y a ni divinité créatrice, ni âme individuelle. Les bouddhistes postulent en effet l'absence de toute âme personnelle et de tout Dieu créateur. Le terme qu'ils emploient, c'est l'anatman, le non-soi, l'absence de soi ou l'insubstantialité. Croire que l'on est une personne dotée d'une âme et d'une âme immortelle est pour eux la source de tous les maux. Pour eux, une personne n'est rien d'autre qu'un composé temporaire de différents éléments autrefois épars, réunis à la faveur d'un ensemble complexe de causes et de conditions dont il est le fruit périssable. Tous ces désirs, toutes ces peurs sont des illusions, des mirages. Il ne s'agit en effet ni de chercher à obtenir quoi que ce soit, ni de chercher à l'éviter. Il s'agit de réaliser que je n'existe pas. On pourrait résumer les enseignements du bouddhisme à deux points. Tout est interdépendant et tout est impermanent. Le soi n'existe pas. Il n'y a à proprement parler personne qui doit atteindre l'éveil. Le comprendre est l'éveil même, et c'est à cela que doivent conduire les différents rituels. Mais revenons au statut de Bouddha que l'on voit fleurir un peu partout dans l'espace supposé laïque de notre pays. Que signifie cette invasion ? Alors, on peut donner deux types de réponses à cette question. Tout d'abord, une réponse qui nous vient de l'histoire de l'art, au plan de l'esthétisme, et une réponse qui nous vient des idées, de l'histoire des idées. Alors, pour ce qui est de l'esthétisme, tout d'abord, la statuaire bouddhique est entrée dans la décoration bourgeoise européenne par le biais du japonisme, cet engouement d'artistes des années 1860-1890 pour l'esthétique japonaise. Il n'y avait rien de mystique ni de spirituel là-dedans. Il s'agissait plutôt de renouveler les codes et les motifs de l'art occidental. La présence de statuettes de Bouddha dans notre environnement s'explique avant tout par un japonisme déjà plus que centenaire. L'énigme des nouveaux nains de jardin est ainsi rapidement résolue. Mais la question est pourtant plus grave qu'il n'y paraît. Pour un bourgeois du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, installer un Bouddha sur son linteau de cheminée n'avait rien d'anodin. Ce n'était pas seulement remplir sa maison d'une ambiance exotique, c'était aussi remplacer un univers culturel et métaphysique par un autre et le revendiquer clairement. On détrônait le crucifix au profit du méditant indien. Ce fut le cas, entre autres, d'Arthur Schopenhauer, de Georges Clemenceau, de l'orientaliste Eugène Burnouf et de l'intellectuel anarchiste et franc-maçon Louise David, mieux connue sous le nom d'Alexandra David-Nel. De fait, la figure du Bouddha traduisait souvent un anticléricalisme, voire un antichristianisme devenu central dans la pensée de ces personnes. La trajectoire intellectuelle d'Alexandra David-Nel, qui s'est rendue célèbre pour son voyage à Lhasa en 1924 et pour les livres sur le Tibet qu'elle a publiés par la suite, est en cela particulièrement éloquente. Ce qu'elle a appelé « bouddhisme » et qu'elle a présenté au public dans ses ouvrages n'est rien d'autre qu'une doctrine anarchiste sans presque aucun rapport avec les croyances et les pratiques des populations asiatiques. Le Bouddha, dont elle collectionna les statues, était pour elle le porte-parole d'une philosophie en tout point contraire au christianisme, dépourvue de hiérarchie, de relations de pouvoir et de ce qu'elle appelait les mythes ou les croyances irrationnelles, c'est-à-dire la foi en un dieu créateur ou en un messie sauveur, en un monde surnaturel, en l'efficacité des rituels, etc. Alexandra David-Nel définissait le cœur de cette philosophie comme un effort visant à libérer l'être humain de tous les carcans culturels et sociaux qui opprime l'individu et l'empêche d'être libre, c'est-à-dire de donner libre cours à tous ses appétits. Le Bouddha était pour elle une sorte de philosophe des Lumières, un penseur libéral avant l'heure. Ce qu'il est toujours aujourd'hui, selon de nombreux commentateurs non avertis, et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de se pencher sur la vision du monde de ces pseudo-bouddhistes. Pour Alexandra David-Nel, l'être humain est avant tout un individu prisonnier des normes de la société dans laquelle il vit et qui doit s'émanciper et qui doit s'en émanciper en prenant conscience de ses conditionnements. Cette prise de conscience se fait au moyen d'une forme d'introspection appelée méditation. Le salut, selon les partisans de ce néo-bouddhisme, consiste ainsi à réaliser que l'on est accidentellement le produit d'une funeste société et que l'on est aussi essentiellement un être libre capable de se définir lui-même en fonction de ses besoins et de ses désirs. La notion traditionnelle de samsara a donc été transformée. Le terme ne désigne plus le cycle sans fin des morts et des renaissances, mais l'univers culturel préexistant à chaque individu, avec ses normes supposées toutes puissantes. Le maître mot de cette philosophie est donc le choix. N'a de valeur que ce qui a été personnellement choisi. Tout ce qui est donné, tout ce qui est déjà là, tout ce qui est de l'ordre du collectif, qui ne dépend pas exclusivement de la volonté de l'individu, tout cela est mauvais. La société impose des obstacles au libre épanouissement des individus. Il n'est pas question d'héritage, de repères ou de sagesse accumulée par les anciens. Il ne s'agit que de malédiction. La méditation promue par les néo-bouddhistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle n'est donc rien d'autre qu'une forme hybride de psychanalyse sociologique, un croisement des théories de Freud avec celles de Durkheim. Ce bouddhisme part en effet du principe qu'il existe une entité homogène et quasi transcendante appelée « société », avec un S majuscule, opprimant les individus qui la composent. Cette société, comparable au surmoi, impose une censure à l'individu, l'obligeant à abandonner certains de ses désirs. Or, selon Alexandra David-Nel, les limites posées par la société n'ont aucun intérêt, n'ont aucune vertu. Qu'elles éduquent les individus et les conduisent à un comportement moral n'a pour elles aucun sens, puisque la morale n'est selon elle que l'expression de la domination des forts sur les faibles. Il faut donc se libérer de la morale et laisser libre cours à ses désirs. Le Bouddha serait celui qui a le mieux accompli cette libération et qu'il conviendrait de prendre pour modèle. Selon cette vision du monde néo-bouddhique, le mal, c'est donc le groupe humain dans lequel on se trouve, et ce, quel que soit ce groupe. Le but recherché est l'émancipation de l'individu de la tutelle, voire de la domination imposée par ce groupe. Le moyen d'y parvenir, la réflexion sur les causes particulières de nos esclavages individuels, tous issus de la société. C'est en acquérant des connaissances sur le fonctionnement réel de la société que l'on pourra s'en libérer. D'où les nombreux articles sociologiques et politiques, d'orientation ouvertement socialiste et anarchiste, publiés par Alexandra David-Nel, qui entendent révéler l'oppression sociale subie par les humains. La société, selon ce néo-bouddhisme des années 1900, est de fait conçue sur le modèle du démiurge des gnostiques, ce dieu mauvais qui créa la matière pour y emprisonner les étincelles divines qu'étaient au départ les âmes humaines. La société est, comme le démiurge, une entité malfaisante qui contraint les êtres à des conduites stéréotypées, mécaniques, les empêchant de s'élever au-dessus, au-dessus de leurs conditions, en suivant leurs aspirations profondes. Pour vaincre ce démiurge, il s'agit d'obtenir la connaissance, avec un grand C, délivrée par des maîtres initiés, en l'occurrence le Bouddha. Cette origine gnostique du néo-bouddhisme n'est pas une simple hypothèse, elle se vérifie dans le fait que les sociétés occultes qui diffusèrent les « sagesses orientales » entre guillemets auprès du public bourgeois de la fin du XIXe siècle, comme la société théosophique, avaient développé des doctrines directement inspirées du gnosticisme ancien. Alexandra David-Nel fut elle-même membre d'une secte ésotérique anglaise appelée la Gnose suprême. Elle fut aussi un membre actif durant de nombreuses années de la société théosophique. La théosophie ou théosophisme que la médium et écrivain russe Elena Blavatsky élabora dans les années 1860-1870 est une synthèse originale d'ésotérisme occidental, néoplatonisme, cabale, hermétisme, alchimie, franc-maçonnerie, de darwinisme, de spiritisme et d'éléments d'histoire comparée des religions, avec un attrait particulier pour les traditions hindoues, mais également les religions de l'Égypte ancienne. Le salut, pour elle, dépend de la connaissance, par l'homme, des lois de l'univers, entre guillemets, que ces lois soient physiques ou métaphysiques. Dans la théorie blavatskienne, les êtres sont situés à des niveaux d'émanation différents à partir de la source divine. Ils sont plus ou moins spirituels, plus ou moins matériels. Les êtres intermédiaires se situent à mi-chemin entre l'homme et la source primordiale. Ils peuvent donc aider l'homme à remonter vers la source. Ce sont les guides ou les maîtres ascensionnés, souvent des hindous, des maîtres hindous cachés au Tibet, selon la mythologie blavatskienne. Notons que ces initiés capables de nous délivrer la sagesse universelle ou primordiale de l'humanité n'étaient pas des Tibétains, selon Madame Blavatsky, mais des hindous réfugiés sur le toit du monde. À l'époque, la religion des Tibétains était considérée comme une forme dégénérée de bouddhisme indien, une superstition comparable au catholicisme avec ses prêtres, ses cérémonies, ses reliques, ses prières et ses divinités. Cet amalgame de culte démoniaque n'était même pas digne de porter le nom de bouddhisme. C'était du lamaïsme, la religion des lamas, ou encore un catholicisme jaune. Mais revenons au salut du pseudo-bouddhisme selon Alexandra Davinel. Comment la société impose-t-elle son empire sur ses membres, d'après elle ? En diffusant des idées fausses, appelées idées fictives ou encore mythes. Plusieurs des articles ethnographiques d'Alexandra Davinel s'attachent ainsi à montrer que la religion des anamites, par exemple, n'a rien de bouddhique, mais qu'elle n'est qu'un ensemble de superstitions issues de mythes. De même, la société occidentale ne tient que grâce à des mythes, notamment le mythe de la morale et du droit. Les mythes, c'est-à-dire pour elle les mensonges, proviendraient de l'ambiance, c'est-à-dire du contexte physique, que Montesquieu appelait climat. On parle en effet de la théorie des climats, idée selon laquelle non seulement les modes de vie, mais aussi les croyances découlent directement du paysage, de la faune, de la flore, de la terre, des intempéries, de la chaleur, de la lumière, etc. Les êtres humains sont ainsi divisés, selon Alexandra Davinel et nombre de savants de l'époque, en deux catégories. Ceux qui sont soumis à l'ambiance et s'inventent des mythes, et ceux qui s'en tiennent à l'observation et développent la science, avec un grand S. Il existerait donc deux sortes d'humanité. Celle primitive, qui résonne par mythe, vit dans l'illusion et est globalement faible et dégénérée. Celle éveillée, qui se fie uniquement à la science, et parvient ainsi à améliorer le monde. Pour notre exploratrice, l'exemple le plus abouti, ou plus exactement le plus dégradé, de la pensée mythique est le peuple juif, ou les sémites de manière générale, c'est-à-dire en fait tous les monothéistes. Alexandra Davinel s'est longuement appesantie sur ses considérations dans des articles scientifiques publiés entre 1893 et 1901 que ses admirateurs aujourd'hui préfèrent oublier. Je vous en épargne les extraits, mais vous pourrez les retrouver dans le livre que j'ai consacré à Alexandra Davinel. Ces articles supposés traités du bouddhisme ou de l'ethnologie étaient de fait consacrés au dénigrement de la mentalité juive, entre guillemets, dont est issu le néfaste christianisme, et faisaient l'éloge de la pensée arienne, ancêtre selon elle de l'empirisme, du rationalisme et du matérialisme. Le judéo-christianisme, selon Alexandra Davinel et les autres porte-paroles de ce néo-bouddhisme, repose sur les idées arbitraires et les contes de grand-mère, tandis que l'admirable antiquité arienne ne repose que sur l'observation des faits. En quoi la pensée arienne serait-elle supérieure à l'esprit sémitique ? La réponse, selon elle, c'est que le peuple arien est resté proche de la nature et n'a inventé aucun dieu pourvoyeur de morale, contraire à l'instinct et aux réels besoins de l'être humain. L'ennemi de l'homme, selon ce néo-bouddhisme, serait donc le dieu de la Bible, idée fictive suprême, empêchant le libre épanouissement des êtres par une série d'idées fausses, les mythes, et de règles de vie mortifères, les commandements, la morale, puis le droit. On retrouve là les considérations idéologiques propres à ce que l'on a appelé la Renaissance orientale, cette découverte des textes sanscrits dès la fin du XVIIIe siècle, découverte suivie d'une promotion enthousiaste des racines aryennes de l'Europe. Le salut apporté par l'enseignement « bouddhique » entre guillemets devait aller de pair pour Alexandra Davinel et ses acolytes avec une véritable réforme des sociétés humaines trop imbibée des idées mythiques des chrétiens. Le bouddhisme, comme programme de réforme sociale, n'est pas seulement issu de l'itinéraire personnel d'Alexandra Davinel, anarchiste, socialiste, féministe et franc-maçonne. Il est l'œuvre de plusieurs penseurs européens, notamment d'occultistes anglais devenus moines bouddhistes en Birmanie ou ailleurs. Citons notamment Alan Bennett, alias Ananda Metteya, un occultiste converti qui fonde en 1903 la Société bouddhiste de Londres, et John Frederick McKechnie, alias Maungni, qui souhaitèrent moderniser le bouddhisme, c'est-à-dire le rendre conforme à leurs propres idées. Un bouddhiste sri-lankais qui avait fait ses études en Angleterre, le professeur Lakshmi Narasu, fait nommément du bouddhisme un socialisme dont l'objectif serait la fin du capitalisme et l'instauration d'une société équitable, voire égalitaire. L'ennemi à abattre ne serait autre que la propriété privée. On le voit, le bouddhisme du tournant du XXe siècle s'inscrit parfaitement dans la mouvance socialo-occultiste décrite par Philippe Muret dans son XIXe siècle à travers les âges. Des religions progressistes visant à remplacer le catholicisme, comme le furent les nombreuses sociétés secrètes de type maçonnique, les socialismes à tendance spiritualiste ou messianique, le positivisme, le saint-simonisme, etc. Telle est donc l'orientation prise par ce projet néo-bouddhique aux alentours de 1900. Un programme intellectuel et social visant à l'instauration d'un bonheur rationnellement construit par le savoir et la réflexion, savoir nommé méditation, rebaptisé méditation. Ce programme s'oppose de front à la pensée mythique, entre guillemets, et particulièrement aux traditions bibliques et à leurs produits dans l'ordre social, droit, morale, famille, état, propriété, et dans l'ordre intime, foi en un Dieu créateur, organisateur du monde et sauveur, et aussi la notion de conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, qui est niée par Alexandra David-Nel. Cette création livresque, qui ignore ou méprise le bouddhisme véritable des Asiatiques, se fonde sur deux sources. Le rationalisme et la philosophie des Lumières de tendance athée et matérialiste d'une part, l'ésotérisme occidental d'ascendance gnostique d'autre part. La méditation pratiquée par les adeptes de ce néo-bouddhisme n'est pas un rituel mais un type de pensée. Son but est de participer à l'effort de réflexion sur la place de l'homme dans la société, dans le but de faire advenir une société idéale de type anarchiste, socialiste ou communiste. L'homme que tente de sauver cette méditation, l'homme auquel elle s'adresse, est un être trompé, brimé, quasi anéanti par les idées fausses diffusées par une communauté dirigée par les puissants. Cet homme ne sera sauvé que lorsqu'il aura personnellement pris conscience de ses désirs et que la société dans son ensemble lui permettra de les réaliser dans l'harmonie générale. Cette méditation, entre guillemets, néo-bouddhique, aurait pu rester l'apanage de quelques penseurs occidentaux et ne pas donner lieu à la mode que nous connaissons aujourd'hui. C'était compté sans l'invasion du Tibet par la Chine dans les années 1950. Jusqu'alors, en effet, les grands maîtres sauveurs de l'humanité matérialiste étaient invisibles, cachés dans les montagnes himalayennes, et les porte-paroles officielles du bouddhisme en Europe étaient soit des orientalistes de métier, soit des écrivains révolutionnaires du genre d'Alexandra David-Nel. Or, en raison de l'invasion du Tibet par la Chine, les grands maîtres de l'Himalaya devinrent soudain accessibles. C'étaient les lamas tibétains, ceux-là même que l'on qualifiait un demi-siècle plus tôt d'adeptes dégénérés du catholicisme jaune. Comment s'est faite l'étonnante transition ? Grâce à l'alliance des hippies et des enseignants tibétains. En France, il faut souligner le travail d'Arnaud Desjardins, dont les écrits et les documentaires contribuèrent à diffuser des représentations merveilleuses de l'hindouisme et du bouddhisme tibétain auprès de la population française sur le mode des Mahatmas de Madame Blavatsky. Le plus connu de ces documentaires consacrés au bouddhisme de l'Himalaya, le Message des Tibétains, qui a été diffusé en 1966, influença particulièrement la jeunesse 68arde qui souhaitait rompre avec les idées conservatrices et chrétiennes encore dominantes à l'époque. C'est le Message des Tibétains qui déclencha notamment la vocation himalayenne de Mathieu Ricard. Or, que nous dit le Message des Tibétains ? Que les moines et les lamas sont les derniers et rares dépositaires d'une sagesse millénaire et universelle dont l'Occident a besoin pour sortir du matérialisme et se régénérer. Ils connaissent des techniques, entre guillemets, qui leur permettent de transformer leur esprit et dont nous devrions nous inspirer pour atteindre enfin le bonheur, rendu inaccessible en raison de notre matérialisme. Les lamas tibétains, nous disent Arnaud Desjardins et les jeunes contre-révolutionnaires, ne sont pas des religieux. La religion est une mauvaise chose. Ils utilisent simplement les ressources insoupçonnées de l'esprit humain pour entrer dans des états de conscience modifiés. Dans ces états, les lamas et ceux qui les imitent seraient capables d'explorer la profondeur et les limites de la vie humaine, en particulier le passage de la vie à la mort. Ils seraient aussi capables de contrôler parfaitement leur vie intérieure, leurs pensées, leurs émotions, leur manière d'appréhender le monde, le devenir de leur esprit à l'instant fatal. Le livre de chevet de nombreux hippies américains, puis européens, fut ainsi le livre tibétain des morts, qui décrit l'évolution de l'esprit d'un mourant du début de sa mort physique à sa prochaine incarnation ou à son éveil. En fait, cet ouvrage devenu livre phare du mouvement psychédélique, mouvement qui s'orienta de l'usage de drogue à l'adoption des techniques de la spiritualité orientale, était déjà en soi un produit de l'occultisme occidental. Le véritable auteur de ce livre, qui n'existe pas au Tibet, il s'agit plutôt au départ d'une collection de prières destinées à guider l'âme du mourant, est en réalité un théosophe américain, Walter Evans Wentz, contemporain et collègue théosophe d'Alexandra David-Nel. Le statut, la nature même de la méditation, avait donc bien changé. Ce n'était plus une réflexion devant conduire à une théorie sur les sociétés humaines, mais une pratique d'ordre rituel qui, cependant, entendait rejeter toute dimension religieuse. Il s'agissait toujours de s'opposer au christianisme. Dans la plus pure fidélité à la pensée de Madame Blavatsky, cette discipline était rebaptisée « science de l'esprit », pour souligner l'alliance de l'ordre physique et de l'ordre spirituel. L'héritage du XIXe siècle et de ses utopies est ici remarquable. La science de l'esprit, en question, entend montrer qu'il est possible de connaître et de maîtriser à la fois les lois de l'univers et celles de l'être humain, le macrocosme et le microcosme, dans le but de parvenir à la plus parfaite connaissance de l'univers et à la plus parfaite harmonie entre les hommes. Promoteur de cette science de l'esprit, le Mind and Life Institute est aujourd'hui le nouvel avatar de la société blavatskienne. Fondé aux États-Unis en 1990, l'Institut a pour objet de concilier les neurosciences et les pratiques méditatives bouddhiques. Ses membres, des neuroscientifiques, des psychiatres, des psychologues, d'une part, et d'autre part, des pratiquants tibétains du bouddhisme, tentent de nous faire croire à la supériorité non pas intellectuelle ni même morale, mais neuronale des lamas tibétains. Ces derniers maîtriseraient en effet, sans même connaître leur existence, les circuits neuronaux permettant de réagir au monde de manière adéquate. Ils travaillent par la méditation en amont de la pensée et de l'émotion. Ils agissent à la cause même des actes qui résident dans le cerveau, modifiant ce dernier à l'envi. Ils n'ont donc pas besoin qu'on leur édicte des commandements, qu'on leur montre des modèles ou qu'on invoque l'existence d'un Dieu créateur, car la mauvaise action, définie comme celle qui cause de la souffrance à soi-même et à l'autre, naît dans le cerveau. C'est là qu'il faut intervenir, dans la boîte noire du comportement humain, auquel les pratiquants expérimentés de la méditation auraient directement accès. Les publications du Mind and Life Institute nous disent ainsi que l'altruisme, par exemple, résulte d'un entraînement de l'esprit. Ce n'est pas un trait de caractère, une qualité personnelle, un don de Dieu, la nature d'un acte particulier dans des circonstances particulières, le fruit de l'expérience et de la maturité, le résultat d'un choc personnel face à la misère humaine, ou bien encore le résultat d'une certaine éducation. Non, l'altruisme, c'est la conséquence logique et inévitable d'un entraînement cérébral particulier. Il serait donc possible de cultiver seul sur son coussin, face à un mur, d'éminentes vertus humaines. Pendant la demi-heure quotidienne d'entraînement préconisée, le méditant ferait tout simplement jaillir en lui, à la source de son être qu'est le cerveau, les émotions positives après avoir vaincu les négatives. Cet entraînement de l'esprit est comparable, nous dit-on, à la pratique d'un sport. Le cerveau s'apparente à un muscle qui s'entraîne. Il s'agit juste de savoir quelle partie du cerveau stimuler et de quelle manière. Ce que nous apprendrait de conserve le bouddhisme tibétain et les neurosciences. Dans les présentations générales de la méditation au grand public, aucun détail n'est généralement donné quant au mode d'emploi exact de cette musculation des vertus humaines, que l'on pourrait également comparer à du jardinage. Le méditant arrache dans son esprit les mauvaises herbes et plante à sa place des graines, à leur place des graines de qualités humaines qui, sous la terre de la méditation, la serre de la méditation quotidienne, ne manqueront pas de donner les beaux fruits de l'altruisme et de la sérénité. Il faut le croire sur parole, ou plutôt s'incliner devant la science, qui aurait, dit-on, prouvé les effets de la méditation. L'être humain, sur lequel aucune théorie n'est développée, comme si cette question n'avait au fond aucune importance, est de fait conçu prioritairement comme un cerveau. Un cerveau et non un esprit, car les promoteurs de la méditation insistent énormément sur la dimension matérielle du support à partir duquel émergent pensée et émotion. Sans cerveau, pas d'émotion ni de pensée. Sans ces dernières, pas d'expérience du monde. Pensée et émotion, au centre de l'attention des praticiens de la méditation, ne pointent ainsi qu'en une seule direction. Elles indiquent le cerveau seul et non le corps dans son ensemble, et encore moins l'âme ou l'esprit. Les sens ne semblent pas participer à l'existence humaine, ou alors à la marge, à titre de perturbation. Si bien que l'être humain tel qu'il est conçu par les promoteurs de cette nouvelle méditation apparaît davantage comme une forme particulière d'ordinateur. C'est un ensemble de connexions matérielles qui se font et se défont, produisant des informations variées que l'on pourrait contrôler selon son bon vouloir. Si des programmations avaient été faites à notre détriment, il suffirait de se reprogrammer autrement, de manière à générer, selon le vocabulaire informatique qu'ils emploient, de nouveaux comportements. L'une des causes plus récentes de l'engouement pour la méditation tient aussi à la récupération par des Américains de pratiques millénaristes birmanes du début du XXe siècle. Ces pratiques furent qualifiées de méditation de pleine conscience, mindfulness en anglais, et reçurent le baptême des neurosciences. Quelle est donc l'histoire tortueuse de cette méditation de pleine conscience? Tout a commencé avec la traduction du terme « sati » par l'expression anglaise « mindfulness » par les membres de la Pali Tech Society au XIXe siècle. Le terme « pali », issu du sanskrit « smirti », recouvre une variété de traductions possibles. Ce n'est qu'après de longues discussions et controverses que les savants optèrent pour l'expression « pleine conscience ». le sens premier de Smirti ou Sati et se souvenir, se rappeler, garder à l'esprit. Dans la tradition védique, il s'agit là d'apprendre par cœur les textes sacrés. En contexte bouddhique, le mot Sati signifie se rappeler les dharmas, c'est-à-dire garder en tête les lois de l'univers révélées par le Bouddha, ces lois étant avant tout, étant tout aussi morales que descriptives. Nous sommes donc loin de l'idée de conscience nue ou sans jugement, souvent attachée aujourd'hui au mot de Sati. Aujourd'hui, en effet, les promoteurs de la méditation entendent ce terme comme le simple fait d'accueillir sans jugement de valeur les pensées et les émotions qui surviennent au cours de la relaxation assise qu'on appelle méditation. Le choix de ce mot de pleine conscience ou mindfulness par les orientalistes du XIXe siècle pour traduire ce terme a permis de faire de la méditation vipassana, la méditation de la vue profonde ou l'inspection, propre à l'école du Theravada, le bouddhisme ancien, une pratique supposément centrale du bouddhisme originel. Puisque le mot figurait dans des textes très anciens, ce type de méditation devait avoir été pratiqué à l'époque du Bouddha. Pourtant, la méditation vipassana avait de fait été peu pratiquée par les bouddhistes d'Asie au cours de l'histoire. En quoi consiste-t-elle exactement ? Il s'agit de faire venir ou de laisser émerger en soi une lumière, une sorte d'intuition, révélant brusquement au méditant la nature fondamentalement vide de son être et de l'univers entier. Cette découverte apparaît au terme d'un cheminement codifié, passant, dans certaines écoles, par 18 étapes. On commence par contempler ce qu'objectivement nous pourrions appeler des dogmes, c'est-à-dire des axiomes non critiquables, des vérités de foi, comme par exemple l'impermanence, l'impersonnalité, l'extinction, la transformation, l'inconditionné, l'état d'être sans désir, la vacuité. Ce type de pratique n'a pas grand-chose à voir avec l'espèce de sophrologie qu'on nous vend aujourd'hui comme panacée. L'objectif de ce rituel codifié et balisé par les dogmes n'est pas la réduction du stress, de l'anxiété ou de la dépression, mais au contraire la production d'un certain stress, celui qui pousse à se détourner du samsara. Quoi qu'il en soit, des Anglais et des Américains de passage en Birmanie au début du XXe siècle découvrirent et adoptèrent avec enthousiasme cette pratique vivant traditionnellement à l'extinction du soi. Il faut ici se remettre dans le contexte politique de l'époque et faire la connaissance de réformateurs religieux anticolonialistes tels Ledi Sayadaw. Entre 1824 et 1826, des guerres anglo-birmanes opposèrent l'Empire britannique, défendant ses intérêts en Inde, et l'Empire birman. Ces guerres se soldèrent par la victoire des Anglais qui allèrent jusqu'à annexer la Basse-Birmanie au cours d'un second conflit en 1852. Malgré les efforts du roi birman pour le moderniser, le pays s'effondra complètement lors d'un troisième conflit avec la Grande-Bretagne. La monarchie birmane fut abolie en 1885 et le pays entra dans le Raj britannique. Le gouvernement britannique pratiqua une politique de non-engagement dans les affaires religieuses de la Birmanie, laissant le champ libre aux réformateurs bouddhistes qui s'inquiétaient du sort de leur religion dans ce nouveau contexte politique. Un vaste mouvement multiforme et multipolaire de sauvegarde et de revivification du bouddhisme émergea alors. L'un des aspects saillants de ce mouvement fut de mettre à l'honneur les bouddhistes laïcs, les moines ne suffisant plus à remplir la tâche historique à laquelle se sentaient appelés de nombreux birmans. La figure de proue de ce mouvement fut le moine Ledi Sayadaw, qui est né en 1846 et mort en 1923, dont le nom signifie « respectable professeur de la forêt de Ledi ». C'est lui qui mit au point et développa une méthode de méditation destinée aux laïcs, celle-là même qui fut reprise par les voyageurs occidentaux pour en faire une technique à visée psychothérapeutique. Mais quel était le sens de la méditation proposée par ce réformateur ? Il s'agissait de faire advenir un nouveau royaume birman bouddhique qui ferait rempart à la colonisation britannique et préserverait le pays de la corruption. Cela devait aussi passer par le redressement moral du pays, en luttant notamment contre la consommation d'alcool et les jeux, et, grâce à la méditation, par la production d'un karma collectif favorable. Pour parvenir à cette production de karma positif, les laïcs devaient s'engager dans la pratique religieuse. L'objectif était de faire ainsi advenir le règne d'un monarque bouddhiste pourfendeur des Anglais. Il s'agissait donc d'une forme de millénarisme qui reprenait des textes anciens en leur donnant un sens nouveau. C'est de là que vient le phénomène de la méditation de masse qui s'étend aujourd'hui dans nos pays. Les disciples de Ledi Sayadaw poursuivirent son œuvre après la mort de ce dernier et diffusèrent ses idées auprès d'occidentaux de passage. La Pali Text Society, notamment, joua le rôle de courroie de transmission auprès du public occidental cultivé. Dans les années 1960-1970, nous l'avons dit, la jeunesse se passionna pour les expériences psychédéliques et les dites spiritualités orientales, parmi lesquelles se trouvait l'hindouisme dans ses différentes variantes, le bouddhisme tibétain, le zen japonais et vietnamien et le vipassana rénové de Ledi Sayadaw. C'est l'un de ces hippies, John Kabat-Zinn, devenu entre-temps docteur en biologie moléculaire, qui élabora la méthode dite MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression, également appelée plus tard MBSA, Mindfulness-Based Stress Reduction, ou simplement Mindfulness Meditation, donc dans un but de réduction du stress et de la dépression. John Kabat-Zinn, également adepte du yoga, réalisa une synthèse à partir de plusieurs types de méditation. Le vipassana de type birman, tout d'abord, qui restait son support principal, puis la méditation zen, mise au point par le réformateur vietnamien Thich Nhat Hanh, des pratiques contemplatives d'origine hindoue, et enfin la technique que développa Philippe Kaplow, un journaliste américain devenu maître de bouddhisme zen. C'est cette synthèse que John Kabat-Zinn nomma « méditation de pleine conscience »,« mindfulness meditation », dont le but n'était plus l'extinction de soi ou l'avènement d'un royaume bouddhique, mais la simple diminution du stress, mal fatal, semble-t-il, de l'Occident. Cette méditation ne serait plus religieuse, elle serait simplement extraite de son contexte bouddhique, comme on tirerait un tournevis de sa boîte à outils. Seulement, le bouddhisme, comme n'importe quelle autre religion, n'est pas réductible à une boîte à outils. Il est d'abord une certaine vision du monde et de l'être humain, de la vie et de la mort, qui donne tout son sens aux pratiques qu'il propose à ses adeptes. Prétendre que la méditation peut se comprendre et se pratiquer en dehors des doctrines qui l'ont vu naître est au mieux une erreur, sinon une tromperie. Prétendre que les effets de cette méditation sont scientifiquement prouvés revient à dire soit que l'extinction du soi par la contemplation du dogme de la vacuité est vérifiée expérimentalement par des scientifiques, ce qui paraît relever d'une contradiction interne, car comment prouver que le réel n'existe pas ? Soit que ce qui est effectivement prouvé par ces scientifiques, dont il faudrait vérifier la source de financement d'ailleurs, n'a rien à voir avec le bouddhisme et relève davantage de la biologie. En somme, il faut choisir son camp. Soit demeurer bouddhiste et s'asseoir en tailleur sur le sol, soit s'en remettre à la psychothérapie et s'allonger sur le divan. Il n'y a pas de juste milieu. Quel est donc l'intérêt de s'asseoir en tailleur face à un mur pour soigner son esprit ? La question va plus loin que la simple remarque de bon sens. La posture stéréotypée du Bouddha que prennent les adeptes de la pleine conscience est réellement problématique parce qu'elle n'a aucun sens. Elle résume, en la cristallisant, toute l'imposture de ce néo-bouddhisme. Pour faire connaître cette méthode, en tout cas, John Kabat-Zinn a mis en avant son diplôme de biologie moléculaire et non son intérêt adolescent pour ses traditions asiatiques. Et c'est bien cette étiquette de scientifique qui lui a permis d'être pris au sérieux et de se vendre plus efficacement sur le marché des thérapies dites alternatives, pardon, ou en meilleur français, non conventionnelles. Aujourd'hui, cette méthode paraît des plus beaux atours de la science grâce à une intense propagande commerciale est utilisée dans les hôpitaux, les écoles, l'armée américaine, les entreprises du CAC 40, à Wall Street, à Davos et même dans certains monastères catholiques. Le problème, c'est que la pratique de la méditation n'est pas comparable à la marche à pied ou à l'absorption d'un remède vitaminé. Que des moines catholiques, mettons, décident de pratiquer la marche rapide une demi-heure par jour ou d'avaler chaque matin un complément alimentaire à base de fruits exotiques, voilà qu'ils ne devraient pas remettre en cause leur foi ou leur vie de prière. Mais adopter la méditation serait en revanche plus périlleux. Nous avons dit tout à l'heure que pour les promoteurs de la mindfulness, la méditation consiste à reprogrammer son cerveau, indépendamment du corps et en niant l'idée d'esprit ou d'âme non réductible à ce dernier. Mais qui est ce « je » qui médite ? S'il n'est pas d'abord un corps biologique relié par son poids, par sa matière et par ses sens au monde qui l'entoure. En tant que catholique, ces moines devraient connaître l'importance capitale du corps, créé par Dieu et élevé par lui à la plus grande dignité, par l'incarnation et la résurrection. Le catholicisme ne peut tout simplement pas s'accommoder de la notion de méditation comme simple formatage du cerveau. Et d'ailleurs, quel besoin de se tourner vers ces pratiques hybrides, américano-théosophico-asiatiques, quand on a chez soi la pratique bien plus ancienne de l'oraison, notamment dans la tradition carmélitaine. À un scientifique, maintenant, qui serait adepte de la méditation, s'impose la question suivante. Quel est le statut des cinq sens ? Peut-on se fier à eux ? Nous livre-t-il des informations fiables sur la réalité dans laquelle nous sommes immergés ? Une telle réalité existe-t-elle après tout, puisque seul semble compter pensée et émotion ? ces produits apparemment autonomes du cerveau. Il me semble qu'il s'agit là d'une question fondamentale à se poser pour un chercheur, fût-il homologué Mind and Life Institute. Considérer le monde comme un produit de son cerveau n'est-il pas par définition le renoncement à toute science possible ? Comment peut-on se dire scientifique et adhérer à une forme extrême d'idéalisme ou de nihilisme ? Le monde existe-t-il vraiment ou n'est-il qu'une projection de mon esprit ? N'est-il vraiment qu'une illusion comparable à l'oasis faussement aperçue dans le désert ? Si cette tradition occidentale nouvelle de la méditation considère effectivement l'univers comme une illusion, elle rejoint alors, sans le dire, l'école Mahayana de l'esprit seul, Chittamatra, qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, selon laquelle tous les phénomènes, y compris la conscience, sont de la même nature que l'esprit de Bouddha, c'est-à-dire, selon les écoles, soit le néant, soit une forme de grand tout. Selon le Chittamatra, il n'existe pas de réel à proprement parler, puisque tout est mirage, si bien que les êtres, la morale et la politique n'ont de valeur que relative, c'est-à-dire artificielle et fondamentalement vide. Cette option philosophique serait lourde de conséquences, et nous devons poser la question suivante à tous ceux qui se targuent de compassion bouddhique. À quoi bon venir en aide à de simples mirages ? L'abandon d'une vision réaliste du monde héritée d'Aristote et de Thomas d'Aquin n'aboutirait pas seulement à une attitude anti-scientifique à l'égard de la vie, mais conduirait aussi à un relativisme moral extrême qui, face à la souffrance d'autrui, consisterait à dire, comme cela se fait encore aujourd'hui en Inde et dans l'Himalaya, c'est son karma. Hélas, j'ai moi-même constaté au cours de mon enquête sur la relation maître-disciple dans le bouddhisme occidentalisé que certaines victimes d'abus sexuels se voyaient rétorquer par leurs propres amis et leurs propres parents « Tu ne peux pas avoir mal puisque tu n'existes pas ». Ce nihilisme néo-bouddhique semble être l'aboutissement d'une tendance générale au relativisme en Occident. Il constitue cependant une nette rupture avec les formes antérieures de néo- ou de pseudo-bouddhisme que nous avons vues précédemment. En effet, le bouddhisme des années 1900 se fondait encore sur une vision réaliste du monde. S'il convenait de transformer ce dernier au point de faire advenir l'harmonie ou la fraternité universelle, selon l'éthos socialo-occultiste, c'est bien parce que l'on partait du principe que ce monde existe bien, et même parce qu'on considérait précisément que seul ce monde existe. Mais si le monde et l'être ne sont que des fictions, à quoi bon s'engager en politique ? À quoi bon défendre une morale et à quoi bon défendre les droits humains ? Ce qui reste aux pratiquants de la méditation, en définitive, ressemble beaucoup au métaverse, ce monde virtuel fictif destiné à remplacer le monde réel dans les projets futuristes des entreprises de la Silicon Valley. Le nouveau bouddhisme occidental semble ainsi en parfaite affinité avec les théories transhumanistes selon lesquelles l'homme et le réel ne sont plus des données mais des construits, c'est-à-dire des déconstruits et des reconstruits, et dans lesquelles la vraie vie, la vie qui compte, se joue prioritairement dans l'imaginaire. Ces questions, ces considérations ne sont à ma connaissance jamais posées par les défenseurs de la méditation de pleine conscience. L'être humain et le réel sont de fait le point aveugle de cette nouvelle pratique à visée thérapeutique. Car quelle est donc la santé, quel est donc le mieux-être que l'on est censé obtenir en pratiquant la dite méditation ? Qu'est-ce que l'être humain fonctionnel, l'être humain qui va mieux, l'être humain résilient, dont la méditation fait la promotion sans jamais le définir ? Puisque philosophie et métaphysique sont résolument exclues des considérations scientifiques des enseignants de la méditation, nous en sommes réduits à quelques déductions, en espérant qu'elles ne soient pas d'injustes réductions. Le salut proposé aux pratiquants de la méditation, c'est la maîtrise de son esprit, ou plus précisément de son cerveau. L'homme idéal, décrit en creux dans les discours sur la méditation, semble être celui qui se maîtrise, non comme un stoïcien ou comme un ascète, par une éthique personnelle ou par une lutte contre les mauvais penchants naturels, mais comme un être qui contrôlerait mécaniquement la chaîne de production de ses pensées et de ses émotions, une sorte de taylorisme de la spiritualité. Ce que l'on espère d'une telle pratique n'est ni la vertu, ni la conformité à la nature ou à un quelconque modèle divin. Ce que l'on doit retirer de la méditation n'est autre qu'une forme de confort. Le but est d'être à l'aise. Mais que veut dire être à l'aise ? À écouter les professionnels de la méditation, qualifiés par souci de scientificité, paraît-il, la pleine conscience, on remarque que ce qui est visé, ce sont avant tout les relations humaines. Il semble que le grand problème à résoudre pour nos contemporains ne soit plus le rapport individuel que l'on entretient à l'égard des normes sociales, comme dans le bouddhisme des années 1900, mais les relations humaines en tant que telles. Il semble que ce soit là, dans le champ informe des relations quotidiennes, que gît le danger pour l'homme d'aujourd'hui. L'équilibre de celui-ci semble constamment menacé par l'irruption de l'autre, dans ce qu'il a d'inattendu, d'incontrôlable et d'éventuellement blessant. D'où l'insistance sur les émotions qui constituent l'essentiel du matériau à traiter. La peur d'être blessé, la peur d'être jugé ou rejeté par l'autre apparaît sinon comme le mal absolu, du moins comme le mal probable. Il est dès lors inutile de se poser des questions métaphysiques ou de rechercher le modèle de société idéale. Il s'agit de se construire une sorte d'armure, des armes appelées techniques, pour se protéger des interférences provoquées par autrui. Autrui est pensé comme une menace mortelle. L'homme idéal, visé par la méditation, c'est donc un homme qui ne se laisse guère toucher par son prochain, de peur d'y laisser quelques plumes. La souffrance à éviter, c'est celle de la perte de soi-même ou d'une partie de soi-même au profit de l'autre. En cela, la méditation d'aujourd'hui n'a plus grand rapport avec le gnosticisme, si ce n'est peut-être dans son rejet du corps. Elle reste cependant en opposition flagrante, non dans le domaine de la pensée, mais dans celui de l'intersubjectivité, avec nos grandes traditions bibliques. Pour conclure, quel est donc le salut proposé par la méditation inspirée du bouddhisme ? Pourquoi tant de gens la pratiquent-ils, ou du moins la louent-ils ? Qu'en attendent-ils exactement ? Un mot me vient immédiatement à l'esprit, une fois passé en revue les différentes étapes de l'invention du bouddhisme en Occident. Et ce mot, c'est le mot « surhomme ». Ce qu'il y a de commun entre le bouddhisme socialiste des années 1900, le bouddhisme des Mahatmas de Madame Blavatsky, la grande pensée aryenne des orientalistes de la fin du XIXe siècle, le bouddhisme des lamas psychédéliques et la méditation de pleine conscience conçue comme un moyen d'augmenter le cerveau, c'est en effet le surhomme. Autrement dit, le rêve d'un être humain non contraint par le réel, quel qu'il soit. Au-dessus des normes de la société, au-dessus de Dieu, au-dessus du christianisme, au-dessus des capacités naturelles d'un cerveau normal, au-dessus des souffrances et des heurts causées par les relations humaines. Et c'est peut-être de manière inattendue, dans son refus du réel et du donné, que cette fiction occidentale rejoint effectivement son point de départ asiatique. Les choses étant vides, chacun peut devenir sa propre divinité. Merci.
Eh bien, je vous remercie personnellement et au nom de tous. Et votre exposé a déjà suscité des questions. Par ordre d'entrée en scène, Guylaine Nalajouanine.
Grand merci, Président, de me donner la parole. Concours de circonstances, j'ai passé samedi après-midi avec Marie-Madeleine Perronnet. Ah. Donc vous vous souriez parce que vous savez que c'est la dame de compagnie d'Alexandra Davinel pendant 10 ans. Et elle voulait absolument savoir et connaître mes explorations que j'ai faites pour apporter la haute technologie au service de la santé et de l'éducation, même dans les endroits les plus isolés, et en particulier les hauts plateaux d'Asie, à part l'Afrique, et les hauts plateaux d'Asie aussi, donc Sikkim, Ladakh, naturellement Lhasa, et le Bhoutan. Et au Bhoutan, surtout, elle voulait voir mes films sur les drones qui apportent les médicaments aux femmes qui gardent les yachts à plus de 5000 mètres d'altitude, où il faut 3 jours de marche pour les trouver. À un moment, je dis à Marie-Madeleine, dis-moi, finalement, quels étaient les deux livres, les deux derniers livres de chevet d'Alexandra ? Eh bien, elle me dit c'était Hegel, ok, et Mémonide. Mémonide aux éditions du PUF. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Je pense qu'Alexandra Davinel est restée vraiment fidèle à sa première formation intellectuelle qui est celle de... Oui, enfin, de l'anarchisme, du nihilisme, enfin, de toutes ces philosophies. Et je crois même qu'elle a dit à Marie-Madeleine Perronnet que, à la fin de sa vie, qu'elles ont retrouvé un manuscrit qui s'appelle Pour la vie, qu'elle avait écrit en 1901, je crois, si je me souviens bien.
Je confirme.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est là où elle expose toute sa vision du monde anarchiste. Et elle a dit à Marie-Madeleine Perronnet qu'elle n'en changerait pas une virgule, enfin, que c'était bien elle qui l'avait écrit et qu'elle n'en changerait pas une virgule et qu'elle était toujours dans cette philosophie-là. Donc, en fait, elle n'est absolument pas bouddhiste. Elle n'a jamais été bouddhiste et... Et Marie-Madeleine m'avait aussi dit qu'en effet, elle n'avait jamais vu Alexandra Davinel pratiquer de rituels, par exemple. Voilà. Donc oui, c'est une fidélité finalement de ce personnage à, cette, à sa formation initiale et à sa vision du monde, qui n'a pas du tout été bouleversée par le bouddhisme finalement.
Hegel, pourquoi ?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Si, il y a tout un passage d'Hegel sur le yoga, etc.
Ah, peut-être oui.
Dommage que Bernard Bourgeois ne soit pas là. Il nous aurait indiqué, comme disent les Américains, chapter and verse. Ce n'est pas le cas. Alors, je ne puis que passer la parole à Jacques Delarosière.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. J'ai été très intéressé par votre exposé parce que vous avez touché le fond du problème. Vous avez montré que le bouddhisme n'est pas une religion au sens que nous donnons à ce terme, que c'est en réalité une école, un instrument, un mode de pensée qui nous entraîne par la méditation à un changement de l'ordre. C'est ça qui est intéressant dans ce que vous avez dit. C'est que ce n'est pas la vérité révélée qui descend vers l'homme. C'est une manière pour l'homme de méditer et de s'améliorer d'une certaine manière. Alors je trouve que cette présentation est très intéressante. Et ce qui est aussi assez attrayant, c'est que vous avez montré que, comme les grandes pensées religieuses, bien que ce ne soit pas une religion, le bouddhisme a été atteint par l'environnement extérieur et qu'il s'est transformé à certains moments, quitte à se départir de son esprit d'origine. Alors, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est comment pourrait-on définir, si on peut le définir, si c'est adéquat de poser cette question, comment pourrait-on définir dans le bouddhisme la notion du bien et du mal ? C'est ma première question. Et ma seconde, c'est que quand le cardinal de Lubac, qui était un grand théologien catholique, a travaillé sur le bouddhisme à une époque où il était interdit de travailler sur le catholicisme parce que l'Église l'avait écarté de l'enseignement. Mais il s'est mis à étudier le bouddhisme. Et le livre qu'il a consacré au bouddhisme est un des livres les plus importants qu'il ait jamais écrit. Et ce qu'il dit dans son livre, c'est que le bouddhisme est, avec le christianisme, le phénomène spirituel le plus important de l'humanité. Alors, ce que je voudrais que vous me disiez, c'est comment vous réagissez à cette assertion. Est-ce que vous pensez que c'est vrai et pourquoi ? Merci.
C'est difficile de répondre à la question de savoir si c'est un phénomène spirituel important. Oui, évidemment, mais pour revenir à votre première remarque, pour la question de la religion, est-ce que le bouddhisme est une religion ? Ça, c'est une question que se sont posées justement tous les orientalistes et on refuse jusqu'à aujourd'hui l'appellation religion au bouddhisme. Mais en fait, le problème vient du terme religion lui-même, qui est devenu un terme péjoratif, essentiellement. Donc c'est une étiquette qui permet de discréditer un groupe, ou en tout cas, à moins qu'on soit soi-même l'adepte de la religion qu'on estime la bonne, c'est pas un terme qu'on emploie. Donc c'est une catégorie piégée, en fait, la notion de religion. Donc en sciences humaines, aujourd'hui, les chercheurs, avant d'employer ce terme qui est polémique, définissent ce que eux entendent par religion. Et éventuellement, ils essayent même d'éviter d'employer ce terme. Mais si on décide d'employer le mot religion, on décide de le définir avant pour que le lecteur ou l'interlocuteur sache de quoi on parle. Et pour ce qui est du bouddhisme, on peut tout à fait considérer que le bouddhisme est une religion, absolument. Et même une sorte de religion révélée aussi. C'est-à-dire que si l'on définit la religion comme un, admettons, comme un système d'idées et de pratiques qui propose, qui met en exergue ou qui révèle le problème universel de l'humanité, qui en indique la cause et qui propose un remède, on peut très bien considérer que le bouddhisme entre dans cette catégorie et que c'est une religion. De plus, le bouddhisme, c'est surtout des rituels. Le bouddhisme asiatique, c'est surtout des rituels. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer le bouddhisme comme une religion. Et si on considère la religion comme une vision du monde qui vise à assurer aux disciples un bien-être ou une solution heureuse dans l'après-mort, le bouddhisme est bien une religion de ce point de vue-là. Et si on considère aussi la religion comme une vision du monde, une pratique qui réalise en particulier des sacrifices, hein, au sens anthropologique, c'est bien une religion. Donc en fait, le terme de religion est un terme piégé, donc soit on ne l'utilise pas, soit on l'utilise et on le définit avant, et il se peut fort que le bouddhisme entre bien dans la catégorie de religion, en fait. Parce que, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, ce que pratiquent les lamas et les moines, ce sont des liturgies. Donc on a un texte à suivre, qu'on doit lire, on ne doit rien inventer par soi-même, on lit des prières, on fait des confessions de fautes, on fait des offrandes, on visualise des mandalas, donc des univers qui sont décrits d'une certaine manière, et on doit les visualiser soi, sans imagination, sans ajout propre, mais simplement de manière stéréotypée. On doit dire des prières, on doit visualiser une divinité, on doit s'unir à cette divinité pour obtenir ses super-pouvoirs, en fait. Donc, selon les définitions de la religion qu'on peut donner, il semble que quand même ça peut facilement rentrer dans la catégorie des religions. Hein. Si la religion, c'est le rituel, le bouddhisme de l'Asie est fondamentalement rituel et fondamentalement religieux. Hein, les premières choses que font les Asiatiques, c'est pas de lire un texte philosophique, c'est de vénérer des reliques, de faire des dons au monastère, de faire des pèlerinages et des choses comme ça. Voilà, donc en fait, c'est quand même... on ne peut plus dire aujourd'hui, raisonnablement, que le bouddhisme n'est pas une religion. Enfin, ou alors, il faut vraiment s'entendre sur les termes. Et pour ce qui est de la question du bien et du mal, en effet, la question ne se pose pas du tout en ces termes-là dans le bouddhisme. On a la notion de dharma, qui est l'ordre, qui correspond à peu près au cosmos. Donc c'est un ordre qu'on doit respecter. Et on peut très bien aussi considérer le bouddhisme comme une religion révélée, même si elle n'est pas révélée par un dieu créateur, puisque c'est quand même cette figure du Bouddha qui a délivré les quatre nobles vérités, qui sont des dogmes, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé de croire que tout est impermanent, interdépendant, que la souffrance de la vie s'explique par l'ignorance du fait qu'on n'existe pas vraiment en tant que « je », que la personne n'existe pas, qu'on n'a pas d'âme. Donc, finalement, c'est un ensemble de dogmes auxquels il faut croire et qui ont été révélés par... Si ce n'est pas le Bouddha Shakyamuni, dont on n'a aucune preuve historique, c'est par un ensemble de personnes qui ont transmis ces vérités. Donc, on peut très bien dire que ce sont des dogmes auxquels il faut porter crédit. Voilà, donc la notion du bien et du mal ne se pose pas. Ce qui compte, c'est plutôt de respecter le dharma et d'accumuler plutôt du karma positif, donc de poser de bonnes actions en espérant qu'elles nous rapportent des bons points. En fait, on a une sorte de compte bancaire à karma dans lequel on accumule soit du bon karma, c'est-à-dire des conséquences d'actes, karma ça veut dire acte, les conséquences d'actes positifs, altruistes, et on peut aussi accumuler du karma négatif, donc les conséquences d'actes négatifs qui ont causé de la souffrance à autrui. Et le but, c'est non pas d'avoir plus de karma positif, mais de plus avoir de karma du tout, pour aboutir à l'extinction. Extinction du compte en banque karmique, extinction de la personne. Et la notion du bien et du mal ne se pose pas. Alors, il y a une éthique dans le bouddhisme qui a été étudiée par quelques chercheurs récemment, qui parle de... Et là, on vient du contexte hindou, qui parle du respect de la vie. Du respect de la vie, Donc avec le prana, la notion de prana, donc ce souffle de vie qui est dans tous les êtres vivants, y compris les végétaux, bien sûr. Et l'éthique bouddhique consisterait à respecter le plus possible la vie, avec tout un tas de, quand même, de situations ambiguës, notamment pour ce qui est du végétarisme. Bon, il est connu que les Tibétains ne sont pas du tout végétariens, mais ils s'arrangent en disant que c'est pas eux qui ont tué l'animal, donc ils peuvent le manger. Bon, des règles un petit peu tarabiscotées pour pouvoir quand même ne pas respecter ce principe de vie. Mais l'éthique donc ne se pose pas en termes de bien et de mal, mais plutôt dans les termes du respect du prana qui est la vie. Et d'ailleurs, les bouddhistes sont tout à fait opposés à l'avortement, par exemple. Il y a des On a des textes qui condamnent à l'enfer surtout des moines qui auraient pratiqué sur une femme enceinte un avortement. Donc on est plutôt dans l'idée d'un respect de la vie, plus qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui.
Merci. Chantal Delsol.
Merci, Monsieur le Président. J'ai juste, à propos de ce que vous venez de dire, c'est bizarre parce que vous parlez d'actes négatifs et d'actes positifs. Il s'agit bien, en l'occurrence, de bien et de mal, puisque causer de la souffrance à autrui, c'est le mal naturel, enfin, qu'on trouve dans toutes les cultures. Donc, finalement, on trouve toujours le bien comme lien et le mal comme séparation, comme diabolos. On trouve encore ça. Alors c'est à l'état naturel, d'accord, mais enfin, il me semble. Je voulais juste vous poser deux questions très, très simples. Enfin, la première, c'est sûrement plus simple de la poser que d'y répondre, mais je n'ai jamais vraiment trouvé de réponse quand je pose cette question à des bouddhistes. Quel est votre avis sur ce point? Comment concilier l'impermanence du moi et la réincarnation? Il n'y a plus personne pour se réincarner. Je trouve ça quand même très bizarre. Je ne suis sûrement pas la première, naturellement, à poser cette question. Et la deuxième, est-ce qu'il y a un lien, d'après vous, mais ça, je ne connais pas non plus la réponse, entre Bouddha et les woke actuels, puisque ça signifie la même chose, au fond? Ah, est-ce qu'il y a un lien? Merci.
Alors, pour la question de l'anatman, l'absence de soi et la réincarnation, c'est tout le problème, justement, du bouddhisme. C'est-à-dire qu'ils se sont opposés, dans ce qu'on sait, hein, historiquement, ils se sont opposés aux hindous en niant la notion de brahman et d'atman, donc de Dieu et d'âme. Et donc, ils en sont venus à poser l'anatman, l'absence de soi. Mais le problème, en effet, c'est qui atteint l'éveil, puisque personne n'existe vraiment. Alors, c'est une contradiction interne au bouddhisme, et selon les différentes écoles, on donne différentes options. Dans les écoles traditionnelles, anciennes, on vise l'extinction. Donc l'image qu'on donne et le terme qu'on utilise, c'est extinction, comme quand on souffle sur une bougie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la flamme qui symbolise la persistance de la conscience, qui n'est pas une âme, peut passer d'une bougie à une autre. C'est pas une personne différente et c'est pas non plus la même personne. Et à un moment donné, on souffle sur la bougie, c'est l'extinction. Ça, c'est les écoles traditionnelles, anciennes, qui considèrent qu'en effet, c'est l'extinction. On réalise qu'on n'existe pas, on s'éteint. Et d'autres écoles plus tardives, ce qu'on appelle le Mahayana, le grand véhicule, par opposition au petit véhicule, enfin ça c'est des querelles d'école, considèrent au contraire que l'éveil, c'est finalement une espèce d'union au grand tout. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont repris des textes hindous où la notion de Dieu panthéiste existait, et dans les pratiques tantriques notamment, il y avait l'idée d'une union, d'une fusion avec le Dieu créateur, et les bouddhistes qui ont repris ces textes avec le Mahayana et le Vajrayana, donc le bouddhisme tibétain, se sont retrouvés à pratiquer de l'hindouisme en quelque sorte, et à revenir à la position antérieure au bouddhisme, donc la position hindoue, pour dire oui, l'âme individuelle va se fondre dans l'âme avec un grand A, l'âme cosmique qui est Dieu. Donc ça, c'est vraiment une contradiction interne au bouddhisme. Selon les écoles, certaines penchent pour l'extinction, donc là, ils sont logiques avec eux-mêmes, et une école qui est ambiguë, qui reste en quelque sorte contradictoire, parce qu'on cherche à atteindre l'éveil, et il n'y a personne pour atteindre l'éveil. Et il ne l'explique pas. Enfin, ça, c'est vrai, vraiment dans un livre d'un spécialiste du bouddhisme et du Tibet qui s'appelle Donald Lopez, certainement le plus grand connaisseur actuellement du bouddhisme. Il l'explique vraiment comme ça. C'est une contradiction. C'est une sorte d'apouri ou de contradiction interne. C'est parce que les bouddhistes, à un moment, se sont réappropriés des textes hindous et se sont retrouvés avec cette idée de... d'Atman, et de Brahman. Donc il fallait que l'âme individuelle rejoigne le Brahman, l'âme universelle. Et eux, ils l'ont appelé l'éveil, mais sans dire vraiment ce que c'est. Donc voilà, donc il y a deux options. C'est une contradiction interne au bouddhisme. Et pour le wok, je pense qu'en fait, il y a une sorte d'affinité entre ces idées de bouddhisme, d'éveil, et puis toutes les idéologies actuelles. Enfin, moi, j'avais plutôt relevé le lien avec le transhumanisme, un peu cette histoire de contrôle du cerveau, d'augmentation du cerveau. Et oui, on pourrait creuser cette ressemblance, en effet, oui.
Je vous en prie. Je vous remercie. Donc, dès s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, si, pardon, d'abord.
Merci de m'être venu dans la discussion. Juste sur ce que vous venez de dire, à ce moment-là, on dirait que Paul Valéry était transhumaniste parce qu'il plaidait pour le sport intellectuel et la meilleure connaissance du cerveau. Je voulais dire, j'ai un peu regretté que votre exposé soit uniquement à charge. On se dirait presque pourquoi êtes-vous autant à charge sur cette question. Et bon, tout le monde en a pris, de la psychanalyse aux neurosciences. Pour faire de l'imagerie cérébrale et explorer le cerveau, je puis vous dire, venez voir dans les laboratoires. On n'a jamais vu un cerveau rentrer sans corps dans une IRM, ni une expérience, je connais bien ces expériences faites aux États-Unis d'EEG avec des méditants, ou prendre n'importe quel exercice spirituel, c'est avec le corps, les réactions du cerveau, mais évidemment il y a la vision, il y a le toucher, donc c'est une construction, une abstraction intellectuelle, dans votre esprit ou dans celui d'autre, de séparer le corps des sens et du cerveau, tout comme on a parfois, alors ça ce n'est pas vous, mais des artistes, des musiciennes qui disent « mais moi je n'utilise pas mon cerveau ». Alors comment imaginer la matrice d'un instrument sans cerveau? Ça ne survivrait pas une seconde. Donc voilà, il y a un aspect dualiste dans votre propos que je comprends, mais qui en fait ne tient pas dans la réalité expérimentale.
Oui, alors pour ce qui est de cet aspect dualiste, je n'ai fait que reprendre les discours des pratiquants des promoteurs de cette méditation qui ne parlent jamais du corps et de l'importance du corps et qui n'ont pas développé de conception de l'être humain. Donc, comme je l'ai dit, il y avait un risque d'être injuste peut-être dans ma description du phénomène. Mais le fait est qu'on a l'impression avec ces promoteurs de la méditation que tout a lieu dans le cerveau, qui est l'alpha et l'oméga de ce qui se passe. Alors évidemment, bien sûr, un cerveau n'entre jamais seul dans un IRM ou autre, mais dans leur vision du monde, la vision du monde qui est développée par et de l'être humain qui est développée par par certains, en tout cas, mais c'est peut-être ceux qu'on entend le plus des promoteurs de cette méditation, on a l'impression que l'être humain n'est qu'un cerveau, en fait, et que la vie consisterait à maîtriser ses émotions et ses pensées. Alors, pour ce qui est de l'exposé à charge, en fait, ce qu'on remarque dans les écrits de ces néo-bouddhistes ou de ces pseudo-bouddhistes comme Alexandra David-Nel, c'est que précisément, ils méprisent profondément le bouddhisme tel qu'il est pratiqué par les Asiatiques. Donc, des gens comme Alexandra David-Nel, qui n'ont jamais eu de maître bouddhiste au XIXe siècle avant de partir en voyage, s'est inventé un bouddhisme complètement fictif et ensuite est allé au Vietnam, enfin dans ce qui était l'Indochine, et puis dans l'Himalaya et au Tibet, pour aller dire à ces gens-là que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas du bouddhisme, et qu'ils n'avaient rien compris, que c'était des crétins des Alpes, et qu'il fallait quand même les réformer, leur apprendre ce que c'était que le bouddhisme. Donc, en fait, c'est plutôt cette attitude-là qui, moi, m'exaspère, en fait. Alors, peut-être que ça se ressent, justement, dans cette critique que je fais de cette démarche, mais fondamentalement, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Asie. Et puis quand ils y sont allés, c'était pour expliquer aux Asiatiques qu'ils n'avaient rien compris et qu'heureusement qu'elle était là pour les réformer, leur apprendre ce que c'est que le bouddhisme. Donc j'avoue que oui, ça dérangeant. Enfin, c'est un petit peu énervant. Donc c'est plus dans ce sens-là que j'ai peut-être une animosité à cet égard, enfin au sujet de ces néo-bouddhistes, parce que finalement ils rejettent et ils nient complètement la dimension religieuse, rituelle du bouddhisme asiatique, qui pour les gens là-bas est central et capital, et c'est une question de vie ou de mort pour eux d'aller vénérer une relique. Donc au lieu de réinventer un bouddhisme et d'aller leur expliquer ce que c'est, il aurait peut-être été intéressant de décrire tout simplement ce que c'est que le bouddhisme asiatique. Donc c'est un petit peu finalement cette espèce d'arrogance de nombreux intellectuels pseudo-bouddhistes qui se reflètent dans cette critique que moi je fais. Voilà, si ça répond à votre question.
Merci. Alors d'abord Jean-Robert Pitt, puis Jean-Claude Casanova.
Merci beaucoup, merci madame de votre intéressant exposé. Est-ce que je me trompe si je dis ce que j'ai toujours entendu dans les cours de géographie sur l'Orient, que le bouddhisme représentait un incontestable progrès par rapport à l'hindouisme, puisqu'il supprimait ce cycle éternel et angoissant, très angoissant, des réincarnations successives liées à la vie qu'on mène sur Terre. Mais que néanmoins, alors ça c'est ma question plus personnelle, que je trouve quand même, c'est un peu ce qui ressort de votre exposé d'ailleurs, que le bouddhisme représente une incroyable frustration pour celui qui est très croyant, même si c'est pas une religion. Et j'en veux pour preuve, j'ai toujours été surpris en me promenant dans divers pays d'Asie, que les temples bouddhistes comportent toujours des petits espaces liés aux autres religions plus ancienne, animiste. En l'occurrence, il y a toujours un espace shinto, voire grand espace shinto dans les grands temples bouddhistes, y compris les plus fameux, qu'en Corée, le chamanisme est très mélangé au bouddhisme, qu'en Chine, le Tao se mélange aussi beaucoup, beaucoup dans les mêmes temples, avec des hôtels ou des petits bouts de temples où on peut rendre un culte à telle ou telle divinité taoïste, qui sont des divinités beaucoup plus sympathiques. Il suffit de leur faire des cadeaux, puis elles sont gentilles, elles vous font réussir vos examens, elles vous font réussir en amour, c'est formidable. La géomancie, c'est pareil, c'est quelque chose qui est totalement étranger, enfin, même si ça se mélange au bouddhisme, mais c'est bien plus ancien, et les Asiatiques en ont tous besoin. Donc être un vrai bouddhiste à 100% m'apparaît quand même extrêmement frustrant, parce qu'il n'y a rien d'incarné, finalement. Or, ces divinités animistes qui viennent des religions plus anciennes sont extraordinairement sympathiques et aident l'homme à vivre sur Terre dans un environnement et dans une histoire personnelle ou collective qui est très hostile. Et est-ce que je me trompe aussi si je pense que le bouddhisme est l'exact contraire du christianisme, avec cette idée que l'idéal du bouddhiste, c'est d'arriver au nirvana, au rien, enfin à l'extinction de tout désir, alors que le christianisme, c'est au contraire, par les œuvres et par la grâce, d'arriver au tout absolu, c'est-à-dire la satisfaction de tous les désirs. Et pour moi, c'est une des définitions du paradis, c'est l'endroit où tous nos désirs, pour les musulmans c'est pareil, pour les juifs c'est pareil, où tous les désirs humains seront satisfaits et avec une plénitude inimaginable. Donc c'est l'exact contraire. Est-ce que c'est une bêtise de dire ça ?
Je me tourne vers le micro. Je pense que vous avez raison sur ce point. J'ai une amie aussi anthropologue qui a travaillé sur la notion de désir justement dans le bouddhisme comparé au désir dans le christianisme. Et en effet, le désir est quelque chose de mauvais fondamentalement dans le bouddhisme. Donc il faut brimer son désir, ou alors l'utiliser, ça c'est le cas du bouddhisme tantrique qui utilise les passions, l'utiliser pour le transformer en moyen d'accession à l'éveil. Donc de ce point de vue-là, vous avez raison. Pour ce qui est de votre première question sur le cycle des renaissances, je ne pense pas que le bouddhisme soit un mieux par rapport à l'hindouisme. Je ne vois pas du tout comment on peut justifier cette idée, d'ailleurs, puisque le samsara existe bien dans le bouddhisme, et l'éveil n'est pas du tout garanti à la prochaine, au moment de la mort dans cette vie, puisqu'on peut rechuter dans un des six royaumes de vie. Donc pour les bouddhistes, c'est une angoisse. J'ai lu récemment justement un livre de témoignage d'un moine tibétain qui s'est converti au christianisme justement. Et alors c'est très intéressant parce que ça renverse complètement les idées qu'on se fait sur le, à la fois sur le bouddhisme et pour certains sur le christianisme. Et il explique qu'en tant que bouddhiste, il vivait systématiquement dans la peur justement, dans l'observation permanente de ses actes en espérant ne pas accumuler de karma. Il explique aussi qu'on trouve des yeux, que vous avez peut-être vu, une paire d'yeux qu'on trouve partout sur les murs des maisons à l'entrée de temples ou sur les stupas, qui représentent c'est une sorte de Big Brother en fait. Donc ces yeux qui vous regardent et qui vous surveillent en permanence, en sachant qu'il n'y a pas de pardon possible. C'est un enchaînement automatique, vraiment d'engrangement de points positifs et négatifs dans son compte à karma. Il n'y a pas la notion de pardon de la part d'un dieu ou quoi que ce soit. Et il explique aussi, alors là c'est propre au Tibet, que souvent, nous, on voit le Dalai Lama comme un être paisible, etc. Et lui, il avait peur de l'image, de la photo du Dalai Lama qu'il trouvait partout encadré dans les maisons des gens, parce que pour lui, on lui avait appris que le Dalai Lama, c'était la réincarnation de la divinité Avalokiteshvara qui avait présidé à la naissance du peuple tibétain. Et alors, le peuple tibétain, selon leur mythologie, descend de l'accouplement d'un singe et d'une mauvaise femme qui voulait absolument se faire engrosser par ce singe, et lui a renoncé, enfin comment dire, ne voulait pas, donc il y a une sorte de bagarre, etc. Il l'a coupée en morceaux, et finalement elle a eu quand même des enfants, et les Tibétains descendent de ce couple, et c'est le Dalai Lama, en fait, en tant qu'Avalokiteshvara, qui a présidé au mariage de ce couple infernal. Donc lui, il disait que quand il était petit garçon, quand il voyait la photo du Dalai Lama partout, il avait peur. Et ce qui domine dans son témoignage, c'est effectivement le sentiment de peur. Voilà, puisqu'il n'y a pas tellement d'issue possible, puisque c'est un phénomène quasiment mécanique. On peut demain devenir escargot, parce que même si dans cette vie-là on a fait le bien, on a peut-être en stock du mauvais karma d'une vie qui date de milliards d'années. Donc il y a une sorte d'arbitraire un peu, sentiment d'arbitraire qui maintient les gens dans la peur.
Voilà. Merci. Jean-Claude Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Je suis très ignorant des philosophies des religions occidentales, mais je m'intéresse aux relations entre la religion et l'organisation politique et sociale. En Occident, le bouddhisme n'a strictement aucune influence. Je ne connais aucun événement ou aucune idée occidentale qui soit influencée par le bouddhisme. Alors, il y a des individualités qui acceptent ou qui deviennent bouddhistes, mais ce sont des... C'est sans importance historique. Je connais un cas, en revanche, où le bouddhisme est invoqué pour en tirer une position politique. C'est celui du frère de Simone Veil. C'est un mathématicien de génie. Mais en 1939, comme Thorez, il a considéré qu'il fallait déserter. Et il a expliqué que son karma, c'était de faire des mathématiques et pas de faire la guerre. Donc, à l'évidence, il interprétait le bouddhisme comme un refus de l'organisation sociale. Or, comme le bouddhisme a joué un rôle gigantesque en Asie, si vous voulez, qu'il parcourt toute l'Asie, il part de l'Inde et il va jusqu'au Japon, il influence incontestablement toute l'Asie. Là, on ne peut pas étudier l'Asie sans étudier le bouddhisme. Alors, ma question est celle-ci: quel est l'effet du bouddhisme sur les organisations sociales et politiques en Asie ?
Alors, c'est une question qui rejoint une autre remarque que vous aviez faite et à laquelle je n'ai pas répondu, qui est celle du syncrétisme. En effet, on ne peut pas trouver le bouddhisme à l'état pur en Asie. Et d'ailleurs, le bouddhisme à l'état pur n'existe pas. Et pour la question du Japon, que je connais un petit peu, c'est connu, on dit que les Japonais naissent shinto, se marient chrétien et meurent bouddhistes parce que ils vont à l'église pour leur mariage, même s'ils ne sont pas croyants. Ils sont shinto parce que c'est la religion un peu populaire. Et puis, pour s'occuper des funérailles, on fait appel aux spécialistes et ce sont les bouddhistes. Donc, il n'y a aucune adhésion à un credo particulier. En fait, c'est en fonction des spécialités des uns des autres. Et d'ailleurs, le shinto... Oui, oui. Mais pour le Shinto, les chercheurs actuellement qui travaillent sur le Shinto et le bouddhisme vous expliquent que on ne peut plus dire aujourd'hui que le Shinto est la tradition, enfin, ou la religion traditionnelle ancestrale des Japonais, une sorte de chamanisme primitif qui aurait été plus ou moins supplanté par le bouddhisme et qui aurait vécu en coexistence avec le bouddhisme. En fait, ils se rendent compte que c'était déjà syncrétique, mêlé dès le départ, et que le Shinto lui-même est imprégné de bouddhisme. Donc en fait, c'est assez compliqué. Les deux sont nés ensemble et en imbrication dès le départ. Et puis oui, ben, pour ce qui est des institutions, oui, je ne connais pas très très bien, mais il y a tout un... En Chine et au Japon, les familles impériales ont utilisé les rites de consécration bouddhique pour faire leurs rites d'intronisation, de couronnement, intronisation, etc. Donc c'est plus sur les cérémoniales plutôt, les cérémoniales de pouvoir. Après, sur les institutions en tant que telles, je ne sais pas exactement quelle influence a eu le bouddhisme. L'influence du bouddhisme se trouve aussi en littérature, c'est-à-dire que par exemple au Japon, l'écriture et la tradition littéraire vient en bonne partie du bouddhisme chinois, par exemple. Et après, pour ce qui est de la vie quotidienne des Japonais, on trouve aussi le culte des ancêtres, qui n'est pas directement bouddhique. Les rituels funéraires sont pris en charge par les bouddhistes, parce qu'on les considère spécialistes de l'après-mort, tout simplement. Voilà. Mais à part le cérémonial des empires, je ne connais pas trop l'influence du bouddhisme sur les institutions en tant que telles. Voilà.
Bien, Michel Pébreau.
Merci de cet exposé très instructif, madame. Vous avez au début expliqué que bouddhiste, c'était un terme occidental. Donc vous avez dans votre exposé montré la distance importante qui existait entre le bouddhisme et la conception que certains occidentaux ont aujourd'hui du bouddhisme. Est-ce que vous avez été tenté d'être bouddhiste ?
Oui, j'ai pratiqué moi-même le bouddhisme tibétain à un moment. Donc, je sais de quoi je parle. J'avais lu des choses sur la méditation et des choses plutôt philosophiques sur le bouddhisme. Et puis, souvent, on nous explique qu'il faut pratiquer la méditation et qu'il faut la pratiquer dans des centres sous la direction d'un maître. Et donc, c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas duré très, très longtemps parce que... Et ça a été le début de ma thèse, c'était de voir qu'on nous présentait le bouddhisme dans des livres comme n'étant pas une religion, ne promouvant aucun rituel, aucune hiérarchie, aucune soumission à personne. On se rend compte, dès qu'on arrive dans un centre bouddhiste dirigé par des Tibétains, mais aussi par des Japonais, mais aujourd'hui ce sont les Tibétains qui sont leaders, si on peut dire, sur le marché, que tout de suite il faut considérer le lama comme un être omniscient, qui n'est mu que par la compassion absolue, quels que soient les actes qu'il pose, et même s'il frappe des gens en public ou qu'il les humilie, qu'il faut pratiquer, faire des rituels, qu'il faut absorber des pilules magiques qui contiennent entre autres des herbes, des minéraux, des reliques de lama éventuellement, bon, et qu'il faut prendre tout ce que dit le lama comme, si j'ose dire, parole d'évangile. Donc, en effet, j'ai constaté le décalage qui existait entre ce qu'on nous racontait dans les livres et puis ce que proposaient les lamas, et c'était le point de départ de ma recherche. Donc oui, en effet, j'ai pratiqué quelques temps. Et ce qu'on voit aussi sur le terrain en Himalaya, c'est que... Alors, sur lequel je ne suis pas allée, mais j'ai beaucoup voyagé au Japon... Mais ce que je sais de l'Himalaya par les voyageurs qui ont écrit sur les religions de cette ère et par les chercheurs, c'est que ce qui compte beaucoup, c'est les rituels et notamment le culte des démons. C'est-à-dire que, justement, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, on essaye de négocier avec les démons de tel ou tel lieu, ou les esprits de tel ou tel lieu, pour obtenir des bonnes récoltes, de la pluie, une bonne santé, etc. Et pour les gens, y compris pour les lamas, c'est quand même la première chose à faire, se concilier les esprits du coin. Voilà, donc c'est vraiment très différent de l'image que l'on a. Et c'est ce décalage qui m'avait intéressé et qui m'a lancé dans cette recherche. Voilà, si j'ai répondu à votre question à peu près. Merci.
Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre de me donner à moi-même la parole. Donc je me remercie moi-même, bien entendu, et je vous remercie quand même, vous, très largement. Et en particulier, c'est assez peu venu au jour dans les questions, pour le panorama d'histoire intellectuelle, histoire des idées, histoire des idéologies, que vous nous avez présenté du 19e siècle européen, qui est l'endroit, le creuset où a été forgé, enfin plutôt la forge où a été forgé, pour prendre une image un petit peu moins baroque, un petit peu moins boiteuse, ce que nous appelons maintenant le bouddhisme, en tout cas le bouddhisme à la sauce occidentale. Et je voudrais faire remarquer qu'il est assez amusant de voir comment le bouddhisme est entré une première fois en Occident, bien avant le XIXe siècle. Je pense aux livres de Barlaam et Joasaph, que vous connaissez, je vois que vous acquiescez. Vous avez eu l'occasion de l'étudier ou...
Pas en détail, mais j'en ai parlé dans les grandes lignes dans un de mes livres, oui.
Je ne me souviens pas, je ne connais pas vos livres par cœur, je les connais pas par cœur. Bon, non, je rappelle que le livre de Barlaam et Joasaph a été le best-seller absolu du Moyen-Âge, et pas seulement dans le Moyen-Âge chrétien, mais dans le Moyen-Âge musulman, dans le Moyen-Âge juif. Il a également connu une version à sa façon, n'est-ce pas? Joasaph, c'est en fait Bouddhasaph, hein, c'est Bodhisattva, c'est venu d'une erreur d'écriture. Alors, c'est l'histoire d'un prince jeune et beau, donc qui aurait très bien pu être de notre compagnie, et qui a tout ce qu'il faut pour réussir, jusqu'au moment où, quittant son palais, je ne sais plus pour quel subterfuge, s'aperçoit de l'existence de mendiants, de malades, de lépreux, etc. Bon, alors évidemment, quand on lit ça, on se dit, c'est l'histoire de Gautama, enfin, telle qu'on la raconte traditionnellement. Et ça continue comme cela. Le jeune et beau prince devient adepte d'une sagesse qui n'est pas nommée bouddhiste puisque le mot n'existait pas, d'une sagesse. Il prend la tête d'un groupe de moines qui est persécuté par le méchant roi, son père. Et puis le méchant roi, son père, il y a une happy end. Le méchant roi, son père, finit par se convertir et devenir lui-même adepte de la sagesse en question. Alors ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'il est entre... C'est un livre donc profondément bouddhique, d'origine bouddhique, qui donne une image du monde qui correspond très négative, du monde comme lieu de perdition, non, comme lieu de malheur, comme lieu de souffrance exclusivement. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre est entré comme dans du beurre dans les univers monothéistes de l'époque, dans le monde chrétien, dans le monde musulman, dans le monde juif et dans le monde chrétien, mais d'un bout à l'autre. Il y a eu une traduction en géorgien, sans parler du latin, sans parler des langues de l'Europe médiévale, le castillan, le catalan, sous des titres différents. Bon, l'histoire est restée. C'est assez extraordinaire de voir comment... Est-ce que vous avez une idée? Quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi les gens ne se sont pas aperçus que, enfin, non pas que ça venait des Indes ou de l'Orient, mais que c'était pas chrétien, que c'était pas musulman, que c'était pas juif pour un sou. Est-ce que vous avez une hypothèse à ce sujet? Le texte grec a été attribué à Jean Damascène en personne. Ah, oui. Évidemment, ça n'a rien à voir avec Jean Damascène. Enfin, c'est d'un grec assez facile, enfin, le grec un peu des pères de l'Église.
Je n'y ai pas réfléchi avant, mais là, ce qui me vient comme hypothèse, ça serait... est-ce que ça ne serait pas, au Moyen-Âge, comment dire, il y a eu quelques descriptions du monde qui venant au départ des milieux monastiques en disant le monde est mauvais, il faut s'en détourner. C'est Jean de Lumeau qui a parlé de ça dans La peur et le péché. Donc tout ce discours très négatif sur le monde, en partant des milieux monastiques, mais qui se sont ensuite étendus à l'ensemble de la culture occidentale, est-ce que ça n'aurait pas été assimilé à ce genre de récit? Peut-être. C'est-à-dire de celui qui va devenir moine parce qu'il considère que le monde ne lui apportera pas le bonheur, le salut, et qu'il ferait mieux d'aller dans un monastère. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça.
C'est assez plausible, effectivement. Je voudrais vous interroger aussi sur une seconde entrée du bouddhisme en Occident. Enfin, là, vous y avez fait allusion tout à fait clairement, la fameuse Renaissance orientale et la figure de Schopenhauer. Bon, Schopenhauer qui a plutôt été influencé par les Upanishads, donc par un texte plutôt que l'on mettrait du côté de l'hindouiste plutôt que du côté bouddhiste. Mais il en a gardé l'idée d'un monde illusoire, d'un monde de pure représentation, comme il dit. Et il en a tiré également quelque chose que vous avez remarqué aussi chez quelqu'un d'une bien moins grande envergure qui est Alexandra David-Nel, un antisémitisme. Et pas seulement antisémitisme au sens actuel, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas les juifs, mais contre tout ce qui, à l'époque, était supposé sémite, c'est-à-dire l'islam, que Schopenhauer poursuivait d'une haine particulière, et puis tout ce qui est sorti de l'Ancien Testament. Alors, Schopenhauer, avec le christianisme, il se considérait lui-même comme une sorte de chrétien, puisque pour lui, le bouddhisme et le christianisme tel qu'il le comprenait, c'était un petit peu même combat. Ce qui évidemment peut surprendre et qui vous surprend particulièrement. Mais
le même combat à combattre par lui ou...
Ah non, je parlais en mai 68. Enfin, je veux dire, c'est plus grossièrement, je dirais, c'était kiff. Bon, pour passer plutôt pour passer à l'arabe populaire. Bon, l'influence de Schopenhauer sur la vie intellectuelle européenne à partir du moment où l'intelligentsia a pris connaissance, donc avec beaucoup de retard, puisque la première édition du Monde comme volontaire de conscience, c'est 1819, si je ne me trompe. Hein. Et ça n'est que dans les années 50, à travers la recension faite par un en anglais d'ailleurs, que l'ouvrage est devenu populaire. Mais alors là, les digues ont été rompues. Et à peu près les philosophes ne l'ont pas tellement pris au sérieux, mais il faut dire que Schopenhauer, lui, n'était pas tendre envers les philosophes, en tout cas les philosophes universitaires. Mais les peintres, les musiciens, les poètes, ont tous plus ou moins été schopenhauériens. Tolstoï a pensé pendant un temps arrêter tout pour traduire Schopenhauer en russe. Lorsqu'on a demandé à Borges s'il pouvait pas présenter sa vision du monde, il a répondu, mais c'est pas la peine, c'est Schopenhauer. Mm. Bon, Beckett, n'en parlons pas, enfin, donc, jusque très avant dans le 20e siècle. Est-ce que, sous le pavillon Schopenhauer, une marchandise bouddhique est aussi arrivée aux gens dont vous parlez, par exemple Alexandra David-Nel que je ne connais que par votre livre.
Quelles seraient les idées de Schopenhauer qui seraient spécifiquement bouddhiques et qui ne se trouveraient en aucune façon dans la la pensée occidentale préalable.
Alors, spécifiquement bouddhique, de toute façon, non, puisque son inspiration initiale, d'une part, est plutôt hindouiste, et d'autre part, il avait déjà son système avant qu'il ne l'imagine corroboré par la lecture des Upanishads, qu'il a faite d'ailleurs dans une traduction latine faite à partir d'une traduction persane. Enfin bon, il en restait suffisamment pour que ça soit lisible. Ben, l'idée du monde comme illusion, c'est quand même, comment dire, quand on dit que le monde est un phénomène, quelque chose qui apparaît, ça n'est quand même pas la même chose que de dire que c'est une illusion. Et d'ailleurs, Schopenhauer est plutôt resté kantien sur ce point. Pour lui, le monde est un phénomène, une représentation, Vorstellung, mais pas illusoire. Il a trouvé donc, dans ce qu'il connaissait de la pensée orientale, la pensée indienne en général, quelque chose qui allait dans ce sens, mais sans évidemment constituer un système auquel il aurait pu adhérer, parce que ce système n'était pas formulé conceptuellement.
Alors, Alexandra Davinel, je crois, avait Schopenhauer dans sa bibliothèque.
Tout le monde l'avait.
Tout le monde. Et puis, Burnouf, Eugène Burnouf, l'orientaliste, apparemment, était adepte de sa philosophie aussi. Et je me demande s'il n'a pas eu. Il l'aurait peut-être rencontré.
Schopenhauer est mort en 57.
Oui, alors c'est possible. Hein. Oui, donc c'est ça. Donc il l'a rencontré, il me semble, oui, Burnouf.
Très bien. Cette atmosphère, théosophique, qui cherche ses références un petit peu partout, vous avez très bien fait de rappeler l'existence du livre de Muret, sur lequel nous avons eu d'ailleurs un exposé. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est Hubert Eckmann qui nous a parlé de la pensée de Muret. Je voudrais également vous interroger sur la notion de réincarnation. C'est assez amusant de voir comment la réincarnation, qui pour disons la pensée hindouiste et bouddhiste est plutôt une damnation, c'est le fait de devoir rempiler désagréablement, est devenu chez des bouddhistes mondains de notre époque l'idée qu'on a une seconde chance. On n'a peut-être pas très bien réussi sa vie, mais on va recommencer, ça va être mieux. C'est très curieux ce retournement ce changement de signe, du plus au moins.
Ça, je pense que c'est la théosophie, la société théosophique, les idées de Madame Blavatsky, qui s'inspirait entre autres du darwinisme et puis d'une certaine idée du progrès. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut que progresser en quelque sorte. Donc il y a une évolution d'incarnation en incarnation, on ne peut pas rechuter. Donc si on a atteint un certain stade, on ne pourra pas régresser, donc on aura accès à un état d'être plus favorable. Je pense que ça vient de cette conception de Madame Blavatsky, de la réincarnation, donc de tout cet ésotérisme occidental, qui a transformé le sens de la réincarnation.
Moi, mon ignorance, est-ce qu'il y avait des éléments russes chez Elena Petrovna ?
Elena Petrovna, apparemment, s'est formée dans la bibliothèque de son grand-père, qui était un franc-maçon et un féru d'occultisme. Et je pense qu'elle a eu surtout accès aux traditions occidentales. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait eu aussi une influence russe. Mais je ne l'ai pas vue signaler dans les...
Russe.
Oui, tout à fait, elle était russe, oui.
Vous voulez une influence bouddhiste ?
Non, elle s'est créée une doctrine à partir de différentes théories ésotériques occidentales et elle a mis par-dessus l'hindouisme surtout. Et après, c'est ses successeurs qui se sont intéressés au bouddhisme et qui ont repris ses idées en collant l'étiquette bouddhisme dessus. Voilà, donc elle, elle a été très critiquée par Max Müller, l'orientaliste allemand, qui s'est battu contre ses idées, l'interprétation de l'hindouisme et du bouddhisme par Madame Blavatsky, qui n'avait pas compris grand-chose, en fait. Donc, elle était déjà tout à fait critiquée à l'époque, et puis il y a eu aussi toute une affaire d'arnaque, enfin, où elle a été prise la main dans le sac au moment d'une pseudo-apparition, d'une matérialisation de l'être de Mahatma, et bon, elle a été confondue. Donc voilà.
Ah oui, alors est-ce que dans ce mélange un peu bizarre, il y a un élément spirit ?
Oui, tout à fait. Parce que le cofondateur de la société théosophique avec Madame Blavatsky, c'était Olcott, colonel Olcott, un Américain, ancien militaire, avocat, je crois, journaliste, qui s'est associé à Madame Blavatsky. Et lui, au départ, s'était intéressé aux phénomènes dits occultes ou paranormaux, on dirait aujourd'hui. Et ça avait commencé avec des affaires de maisons qui frappent, quoi, de spiritisme, exactement.
Je peux peut-être apporter une précision au niveau maçonnique. Elle faisait partie du droit universel.
Qui ça
humain. Donc elle a eu une période. Véritablement.
Alexandra Davinel.
Oui.
Oui. Mais pour Elena Blavatsky, apparemment, ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est formée
droit
dans.
Droit humain.
La... Oui, droit humain. Oui. Voilà.
Très bien. Bon, écoutez. Nous avons terminé un petit peu avant l'heure, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la suite au prochain numéro.
Merci.